En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Peut-on préciser par une lecture politique et non pas seulement économique le poids et le rôle des pays émergents ? Tel est le sujet développé par l'ambassadeur Pierre Morel, représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale, lors de la communication qu'il a donnée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, réunis en séance le lundi 2 avril 2012. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord le président pour l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, présenter en le résumant le parcours de Pierre Morel.
Nous abordons, avec la communication de M. l'ambassadeur Pierre Morel, le cœur des forces neuves que nous essayons d'examiner dans le monde actuel, puisqu'il s'agit d'une vue d'ensemble sur les pays émergents. Les pays émergents sont aujourd'hui communément désignés sous l'acronyme anglais de BRICS, l'acronyme français ABRIC ou BRICA, désignant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cet acronyme français n'a pas vraiment pris racine. Le terme de BRICS apparaît dès 2001 dans une note de Jim O'Neill, qui était alors l'économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs, et ensuite il a été très largement repris. Mais il se pose malgré tout un problème de définition. Le groupe des BRICS s'est institutionnalisé après la première rencontre qui a eu lieu à Ekaterinbourg en juin 2009. En 2011, l'Afrique du Sud a adhéré à ce groupe et les cinq pays ont participé ensemble à la quatrième rencontre du groupe de BRICS la semaine dernière à New Delhi. Cependant, les cinq pays de ce groupe, de ce club, ne sont peut-être pas les seuls à mériter le nom de pays émergents. Chacun d'eux, d'ailleurs, n'a pas la même physionomie, ni au point de vue économique, ni au point de vue politique. Et selon qu'on donne à la notion de pays émergents un contenu essentiellement économique ou aussi politique, selon qu'on considère la politique ou les réalités, on peut compter ces pays émergents de manière tout à fait différente. Et c'est sur ce point en particulier que l'exposé de Monsieur l'ambassadeur Pierre Morel doit nous éclairer. Il m'a semblé qu'il était particulièrement bien placé pour le faire, parce qu'il a commencé sa carrière d'homme public sous l'égide de l'utopie à l'ENA, dans la promotion Thomas More, en 1969. Mais il a continué une carrière, pour ainsi dire, idéale de diplomate au Quai d'Orsay, vraiment les pieds dans la réalité. Il a débuté à la direction d'Europe, puis il est passé au centre d'analyse et de prévision. Il a effectué un premier séjour en Union soviétique de 1976 à 1979, où il a acquis une capacité de russisant tout à fait remarquable, capacité qui a été renforcée encore par son mariage avec une éminente diplomate, Madame Olga Bazanov-Morel, dont je regrette que sa santé ne lui ait pas permis d'être ici ce soir, et qui non seulement est très éminente russisante, mais également a conduit son mari à s'intéresser tout spécialement à la Chine, parce qu'elle est éminente sinologue. Monsieur Morel a été de 1981 à 1985 chargé de mission au cabinet du président de la République, puis conseiller technique au secrétariat général de la présidence. Il est devenu directeur politique aux affaires étrangères en 1985-86. Il a été ensuite nommé ambassadeur représentant de la France à la conférence du désarmement à Genève, où il est resté 5 ans, de 86 à 91, occupant également d'autres charges, comme par exemple président du comité spécial des armes chimiques. Il a donc acquis une vision de l'ensemble des problèmes de désarmement et d'armement dans le monde. Il a repris du service à la présidence de la République comme conseiller diplomatique de 91 à 92, puis il a été nommé ambassadeur auprès de la Fédération de Russie et il est resté là de 92 à 96, exerçant concurremment les fonctions d'ambassadeur en Géorgie, au Turkménistan, en Moldavie, en Mongolie, au Tadjikistan et au Kyrgyzstan. De 96 à 2002, il est allé chez le voisin, en Chine, comme ambassadeur, où il a laissé, je dois le dire, un souvenir tout à fait inoubliable. Il faut dire qu'avec sa femme, il constituait une paire. Et l'avantage de Madame Morel est qu'elle était toujours placée dans les dîners auprès des personnes importantes, évidemment, et pouvait recueillir les renseignements les plus intéressants qu'elle communiquait à son mari. C'était une conjoncture tout à fait particulière. Puis, il a fait un peu amende honorable au Saint-Siège, de 2002 à 2005, et depuis 2006, il est le représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale, ayant donc vocation à connaître toutes sortes de pays qui émergent, comme il va nous le dire. J'ajoute que, cher ambassadeur, vous êtes aussi homme de lettres, et vous avez traduit plusieurs œuvres d'Ernst Jünger, notamment son essai Mantrana et des récits comme Serpentard et San Pietro, qui narre le séjour de Jünger en Sardaigne. Mais ce soir, ce n'est pas de littérature que vous nous parlerez, certainement de réal politique, et je suis heureuse de vous laisser la parole en vous remerciant de venir nous éclairer. Je vous en prie.
Madame la Présidente, je vous remercie. Vos propos me touchent et évoquent aussi des moments partagés et en toute amitié avec vous, sous l'égide de la Chine en particulier. C'est dire que ce sujet est un peu un défi, c'est votre appel, j'essaierai d'y répondre, ainsi qu'aux vœux exprimés collectivement pour engager en quelque sorte cette réflexion sur ces nouveaux pays, ces nouvelles puissances du système international. Je vous ai seulement précisé, pour répondre à votre proposition, que je me sentais prêt à une lecture politique. Et c'est dans ce sens-là que je crois que je peux essayer d'apporter modestement quelque chose parce que nous tâtonnons tous à ce travail de définition que vous avez amorcé. Si vous le voulez bien, partons du terme lui-même, qui a un début d'histoire. Je remonte juste à l'étape d'avant, si vous voulez bien, puisque la notion de BRICS est sortie de celle de marchés émergents. Il faut rappeler que c'est au sein de la Banque mondiale, en 1981, qu'un économiste de la Société financière internationale, Antoine van Agmael, lance le concept de marché émergent comme outil d'analyse des pays engagés dans une dynamique particulière qui les distingue en quelque sorte du reste de la masse des pays en développement ou encore des pays du tiers-monde, comme on dit à l'époque. Les institutions financières internationales cherchent alors à construire une approche plus différenciée du système international pour mieux orienter leur action. Elles sont rejointes par les donneurs d'aide, les banques, les grandes entreprises, les instituts de recherche, qui voilà un moyen de mieux orienter leurs investissements. La notion de marchés émergents remplace en fait à ce moment-là la formule antérieure, plus statique, de nouveaux pays industrialisés. Vous venez de rappeler que la deuxième étape est venue avec la formule BRICS, BRICA, mais comme on parle de sigles, on peut se demander si ce n'est pas l'Argentine au lieu de l'Afrique du Sud, au moins le S oriente vers l'Afrique du Sud plus aisément pour fixer l'attention. Je l'emploierai puisque, comme vous l'avez dit, il est devenu d'usage courant, mais ce qui est a motivé la démarche de Jim O'Neill, c'est l'argument qu'il a avancé, c'est de souligner que ces quatre pays, parce qu'à l'époque c'était les BRICS, pèseraient plus lourd en 2050 que les économies du G7. C'était une sorte de signal, d'alerte. Le succès, vous l'avez dit, a été immédiat, avec le complément, Ekaterinbourg en juin 2009, et donc l'Afrique du Sud rejoint au sommet des BRICS à Sanya, en Chine, dans l'île de Hainan, en 2011. Nous avons affaire, comme vous l'avez dit, à une nouvelle instance internationale. Le terme désormais de courant de pays émergents met en valeur un groupe restreint d'acteurs étatiques qui n'appartiennent pas au noyau central qu'est le G7, mais entendent tirer parti de leurs atouts économiques actuels et potentiels pour jouer un rôle politique croissant dans le système international qui connaît, de leur fait, une transformation profonde. On assiste ainsi au passage, je crois qu'on peut le schématiser ainsi, au passage de la première mondialisation conduite pendant une trentaine d'années par les pays du G7, c'est-à-dire les Occidentaux, conduits par les États-Unis eux-mêmes, élevés les États-Unis en 91 à la qualité de seule superpuissance mondiale, passage à une deuxième
mondialisation progressivement prise en main par ces pays émergents. Sans qu'il y ait un lien direct, on peut considérer qu'en exposant brutalement la vulnérabilité américaine, l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 a marqué le début de ce tournant et évidemment amplifié ensuite par l'impact très discriminant de la crise financière internationale dont nous ne sommes pas encore complètement sortis à partir de 2008, qui a brusquement accentué le contraste entre l'évolution des grands pays développés et celle des pays émergents. Cette deuxième mondialisation a ainsi été perçue comme un processus de désoccidentalisation du monde. La prolongation de la crise à l'Ouest, les hésitations des États-Unis, l'affaiblissement relatif de l'Europe ont même conduit à parler d'un basculement du monde. Si l'on suit ce raisonnement, certes très schématique, il faut en fait déjà parler de puissance émergente et on a envie de dire de puissance émergée, ou encore plus simplement de nouvelle puissance. Mais rien n'est encore figé. La transition est en cours et elle est complexe. Chacun des grands acteurs, anciens ou nouveaux, prend la mesure des autres, teste, observe et agit. Il faut aujourd'hui essayer de saisir le vif, ce passage, ce jeu des forces qui provoque cette émergence et recompose le monde contemporain. Essayons de proposer une définition, une typologie et une dynamique des pays émergents. Essayons de définir ce qu'est, je le ferai collectivement parce qu'un passage en revue serait assez redoutable, l'ambition collective des pays émergents. La définition des traits communs est partie de critères économiques, vous l'avez rappelé. Produit intérieur brut, taux de croissance et part dans le commerce mondial. Ce sont en soi déjà des critères très parlants. Mais la mise en place du G20, même réservée en principe aux grands enjeux économiques du fait de la crise, confère aussi à ses membres un statut d'acteur politique à vocation globale, puisqu'il établit d'un coup un nouveau rang pour la première fois depuis la création, le lancement du sommet de Rambouillet en 1974. La raison d'être était déjà à l'époque économique, mais l'exercice d'une autorité politique de fait s'est vite imposé dans le cadre très structuré du G7, devenu plus tard le G8 avec la Russie. Au cours de la dernière décennie, au demeurant, les présidents successifs du G8 ont convié, en fin de sommet, un deuxième cercle informel et variable. C'était déjà un processus d'admission progressive, mais la crise de 2008 a accéléré cette transition en consacrant la sélection de 12 pays, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie. Cette reconnaissance collective est un acte majeur, mais on voit en même temps que ce groupe est hétérogène. L'Australie, nouvelle puissance économique, certes, reste un allié des États-Unis, et d'ailleurs on le voit avec les nouveaux développements de la stratégie américaine vers le sud-est asiatique. La Corée du Sud est aussi un allié des États-Unis, et évidemment dans la situation particulière que l'on sait de la division. En sens inverse, la Russie, membre établi du G8, s'est pleinement engagée dans le groupe en quelque sorte séparatiste et contestataire des BRICS. Malgré ces différences, on peut ainsi dresser un portrait collectif des grands pays émergents comme acteurs globaux désormais établis. Je vais me livrer, par quelques coups de crayon, à un dessin rapide de ce qu'est, de ce profil d'un pays émergent. Deux grandes caractéristiques, une société en évolution rapide, urbanisation accélérée, enrichissement des élites urbaines comme moteur principal du changement, rôle affirmé des nouvelles classes, on retrouve Gambetta, et plus généralement émergence de la classe moyenne, induisant des factions au sein du parti dominant ou unique, ou l'apparition de nouveaux partis et de nouvelles coalitions. Fort degré de corruption, contraste entre les élites mondialisées et une masse qui ne sort que partiellement de la grande pauvreté, choix stratégique majeur pour le court et pour le long terme. Et l'un des points intéressants, c'est la nécessité dans lequel ce pays type émergent est obligé de modifier ou d'ajuster en cours le modèle de développement qui a permis sa première réussite. Choix de l'énergie nucléaire dans la plupart des cas, grandes entreprises, étatiques ou non, développant une stratégie mondiale et politique de champions nationaux. Approche prédatrice puis défensive de la propriété intellectuelle. Société en vif débat, partagée entre la réaffirmation identitaire et la maîtrise de la postmodernité. Gestion délicate de l'afflux des capitaux spéculatifs. Enfin, expansion ou regain d'une diaspora très dynamique. Voilà pour esquisser ce qu'est la société en évolution rapide des nouvelles puissances émergentes, qui est aussi, dans son type, un acteur westphalien souverainiste. Défense énergique du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, Russie et Chine mis à part, déjà membres permanents, rotation rapide et fréquente au Conseil de sécurité des Nations Unies et candidature établie comme membre permanent, voire semi-permanent si cette formule se dégageait. Priorité résolue donnée au programme d'équipement militaire, quel que soit le discours officiel. Capacité de projection croissante qui invoque les intérêts de sécurité liés aux importations, aux échanges, mais soutient cette projection aussi la recherche de la prépondérance régionale. On peut même aller jusqu'à parler d'une tentation d'une hégémonie régionale de fait, mais dans le même temps, effort compensatoire pour susciter un cadre de concertation régionale ou même suprarégionale. Enfin, élément déterminant, autonomie stratégique ou même rivalité avec les États-Unis. Peut-on, à partir de là, identifier une idéologie des émergents ? La montée des grandes contestations collectives a été récurrente depuis plus de 2 siècles. L'entrée en scène concertée des pays émergents ouvre un nouveau grand débat international sur l'exercice du pouvoir à l'échelle mondiale. Je crois qu'on peut dire qu'on assiste à une deuxième vague anticoloniale, il faut le dire, décalée, amortie, mais néanmoins profonde. Il y a là une relecture de l'histoire, une révision de la mémoire, la construction d'un nouveau grand récit en fonction du changement du rapport des forces. C'est une revanche symbolique. Et en particulier, on l'a vu sur le thème très discuté des valeurs asiatiques et du basculement du monde vers l'Asie. Je passe. Je relève quand même particulièrement pour l'Inde et la Chine que ce discours est accentué en y voyant la fin d'une anomalie historique de 2 siècles, comme une parenthèse qui se referme. Souvenons-nous qu'en 1820, la Chine et l'Inde représentaient 50% du PIB mondial. Les mémoires impériales russes, iraniennes, ottomanes et même brésiliennes, souvenons-nous de Pétropolis, peuvent s'y retrouver. La revendication commune, c'est celle d'une recomposition légitime du monde. A-t-on affaire à un anti-occidentalisme dans cette logique anticoloniale ? Oui et non, parce que on a en même temps un succès paradoxal de l'Occident. Constatons qu'il n'y a pas de véritable discours contestataire radical, le seul en place aujourd'hui de la part d'un État. C'est celui de l'Iran. Les critères de réussite, alors on peut dire que l'Iran est une puissance émergente. Je fais le choix de ne pas l'inclure précisément parce que la logique de l'Iran est différente. C'est le centre de la seule contestation de l'ordre international existant. Ce que ne pratique aucun, je veux dire, contestation radicale à partir d'un autre système de valeurs qui récuse toutes les références établies, y compris les plus admises, celle des Nations Unies, je pense à la déclaration de 48 sur les droits de l'homme, etc. Les critères de réussite, et c'est pour ça qu'il est difficile de parler complètement d'anti-occidentalisme, sont ceux des normes occidentales. Voyons en plus les leçons des premières leçons des révolutions arabes. C'est précisément que ce que l'on voulait reprocher à l'Occident, ou l'on voyait comme une pression menace de l'Occident, émerge, monte, avec d'immenses débats et des contre-coups, évidemment, des mouvements populaires profonds du monde arabe jugé, bloqué, arriéré sur le plan politique, etc. Et voyons encore plus précisément le partage de ces pays à propos de la résolution du Conseil de sécurité sur la Syrie le 4 février dernier. La Russie et la Chine opposent leur veto, l'Inde et l'Afrique du Sud votent pour. J'y reviendrai. Alors, on a affaire peut-être, pour garder des termes plus généraux, à une ligne générale anti-hégémonique. Peut-être, si l'on veut, mais les grands pays émergents se laissent entraîner par l'hégémonisme et leur concurrence multipolaire expose aussi leurs contradictions. Simplement, leur message collectif revient à affirmer de différentes façons que l'Occident traditionnel n'est plus au centre du système international. On est donc en présence d'un fond idéologique plutôt que d'une idéologie constituée. De façon pragmatique, les principaux pays émergents cherchent moins des victoires symboliques que des avancées concrètes. Commerce sud-sud, infléchissement progressif du système international, y compris le système monétaire, aménagement du système de Bretton Woods, et en fin de compte, réforme de la gouvernance mondiale pour y occuper toute leur place. Quelle typologie peut-on avancer ? Je me concentre, Madame la Présidente, sur les grands pays périphériques. Même si leur réussite spectaculaire et récente et collective, ces puissances sont aujourd'hui portées chacune à leur façon par un élan national puissant qui réunit l'affirmation d'un destin historique, l'exercice d'une prépondérance régionale et l'ambition d'agir directement sur le système international lui-même. À partir d'un fonds commun, chacun de ces grands pays définit sa propre émergence. Comment ne pas commencer, Madame la Présidente, par la Chine ? D'une certaine façon, elle domine tous les autres. C'est le plus émergé des émergents. Et on a presque envie de dire, quand on parle des émergents, la Chine et les pays émergents. Ce qui est frappant, c'est le choix résolu de la modernité depuis la fin de la révolution culturelle, qui reprend, à vrai dire, un axe ancien, sont bien connus. Le choix des méthodes occidentales met la sauvegarde au service des valeurs chinoises. C'était déjà celui de vos chers étudiants chinois de l'école normale supérieure au XIXe siècle, ou encore de l'expérience Kang Youwei de 1898 en réaction à l'échec devant de Shimonoseki devant le Japon de Meiji. Mais en même temps, cette Chine éminemment émergente, émergée, reste politiquement en retrait, en attente. C'est la leçon de Deng. Il faut rassembler ses forces. Dans les années 90, elle évite de s'engager. Tout le monde au Conseil de sécurité attend toujours que les instructions arrivent de Pékin. On prend la mesure avant de voter. On sent la même chose vis-à-vis du G8 et des non-alignés. On dit qu'on est prêt à travailler avec l'un et avec l'autre. Réserve, prudence, au point de s'auto-censurer. Un mot chinois, là, avait été lancé vers 2003-2004, celui de Heping Juechi, traduit en montée pacifique. Mais Juechi, je crois, j'ose dire, c'est plutôt le surgissement, puisque le modèle que l'on donne, c'est celui du bambou qui peut croître d'un mètre en un jour. Et à ce point, l'autocensure se manifeste que, précisément, les autorités chinoises ont préféré changer et parler de développement paisible, puis de société harmonieuse. Donc, toujours cette volonté de ne pas trop laisser croire, ou le laisser apparaître plutôt. Mais le cap est maintenu. Et je note les propos l'an dernier du président Hu Jintao. Les deux premières décennies représentent une opportunité stratégique, mais qui devient plus risquée en raison de la compétition internationale plus intense. Et donc, on voit que cette montée en puissance fait apparaître de nouveaux risques. Les débats sont plus intenses. Et là, le discours de Wen Jiabao lors de la dernière réunion de l'Assemblée populaire est tout à fait remarquable. La réforme est à un stade critique. Sans réforme politique réussie, il est impossible d'établir des réformes structurelles. Les gains pourraient être perdus, les gains de la Chine. Les nouveaux problèmes de la société chinoise ne pourraient être fondamentalement résolus. Et une tragédie historique comparable à la révolution culturelle pourrait se reproduire. 14 mars dernier. Propos impressionnant. Et donc, on voit bien ce souci à la fois d'affirmation et d'autocontrôle. L'attitude est ferme sur les crises, Libye, Syrie, mais là, la Chine n'est pas en première ligne, c'est la Russie. Je constate aussi que la Chine pratique un certain degré de coopération sur l'Iran, sur l'Afghanistan. Elle est habile avec ses voisins, ASEAN plus 3, création de l'organisation de coopération de Shanghai, négociation ASIS sur la Corée du Nord. En quelque sorte, le G20 permet à la Chine de construire par étapes son rôle de partie prenante, comme elle l'a montré au sommet de Cannes. Mais ce sera une cogestion prudente plutôt qu'un partenariat. Une question demeure, cette prudence porte-t-elle sur la forme ou sur le fond ? L'harmonie tant invoquée sera-t-elle concertée ou imposée ? L'Inde offre une émergence déconcertante, originale. Accès à la puissance nucléaire sans rupture majeure, passage maîtrisé à une réelle politique que masquait de moins en moins un pacifisme de façade, tournant historique de l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Mais le succès est très rapide dans le domaine des services. Ensuite, les grands groupes industriels suivent. La stabilité politique est remarquable, due à une capacité impressionnante de résolution des conflits internes, flexibilité institutionnelle, rationalisation de la carte politique, création de nouveaux États, intégration politique progressive des basses castes et minorités sans assimilation culturelle. Il y a peut-être un retard politique, me semble-t-il, de l'Inde, un passage tardif à une vision suprarégionale, comme si le voisinage immédiat avait longtemps obsédé. C'est le Look East Policy vers le Japon, l'Australie, l'engagement en Afghanistan, en Asie centrale, en Afrique. Mais une question non résolue reste. Le rapport avec la Chine, précisément. Si l'on met à part la diffusion du bouddhisme avec Xuanzang au VIe siècle, on a deux mondes, deux ados. Malgré une relance sérieuse du dialogue depuis 10 ans, l'évitement persiste. La première ligne aérienne directe entre Pékin et New Delhi a été ouverte en 2003. Aucune des deux parties, pourtant, n'a intérêt à un conflit dans lequel seraient toutes les deux perdantes. Mais c'est pourtant la Chine qui bloque l'accès de l'Inde au Conseil de sécurité. Pour l'Inde, puissance émergente, le principe directeur est donc celui de l'équilibre dans les débats internes comme dans les partenariats et les engagements internationaux. Face à la Chine et aux États-Unis misent sur l'Inde, mais celle-ci ne sera jamais l'alliée de personne. L'autonomie stratégique est fondamentale. Venons-en à la Russie. Les questions se posent. Peut-on ignorer 1000 ans de relations avec l'Europe, avec la France ? Anne de Kiev, épouse du roi de France au XIe siècle. Et alors la Russie ne serait qu'un pays émergent ? Il y a plusieurs réponses possibles, mais c'est un postulat. Pour ma part, je serais tenté de considérer que si nous acceptions ce postulat, nous, là où nous sommes, ce serait la fin de notre relation telle qu'elle existe, riche et complexe avec la Russie. Mais un fait est que ce postulat est répandu. On peut répondre en 3 temps. La Russie est-elle un BRIC ou non ? En partant des données économiques qui ont un effet politique direct en raison de la place déterminante du prix du gaz et du pétrole de 2000 à 2008, la Russie est un super BRIC, car son taux de croissance dépasse celui de tous les autres membres du groupe. C'est du rattrapage, certes. En 2008-2009, la crise en fait un post-BRIC, avec une chute très sévère du taux de croissance à moins 9%. Depuis, le rétablissement est acquis, avec quand même des incertitudes, si bien que l'on serait tenté de dire que la Russie, dans ce postulat, est un quasi-BRIC. On trouve en effet de bons arguments en faveur, aussi contre, je les ai dit, pour un tel rattachement. Mais en fin de compte, ce qui importe, c'est que la Russie, aujourd'hui, se considère comme un pays émergent ou réémergent et que ses dirigeants tiennent fortement à leur appartenance aux BRICS. Les faiblesses présentes de la Russie conduisent la direction renouvelée, recomposée, à miser sur le dynamisme des émergents. Et cela explique, je crois, le choix de cette recomposition. Il n'y a pas de relève disponible en ce moment, tel est, je crois, le sentiment général. Mais cela viendra peut-être si le sursaut politique de l'année dernière et du début de cette année permet de créer un vrai débat public sur l'évolution future du pays. Le choix du président Poutine le porte vers une pratique défensive de la multipolarité qu'illustre en particulier la position sur la Syrie. Il a besoin de garder aussi une certaine maîtrise de l'étranger proche, la CEI, et il sait en même temps que les méthodes anciennes n'ont plus cours. Les enfants ont quitté la maison et n'y reviendront pas. Mais un lien subsiste que l'on peut transformer, d'où le pari de l'Union économique eurasienne, plus originale qu'il n'y paraît. Il s'agit à partir d'une union douanière lancée avec le Kazakhstan et le Bélarus, le Kazakhstan est aussi un pays émergent, mais pas dans la même mesure, d'engager une intégration économique qui ne relève plus des recettes post-soviétiques, mais bien du modèle de l'Union européenne. La Commission eurasienne en place rassemble déjà 700 experts, devra en compter 1200 à la fin de l'année. Tous les diplomates russes en poste à Bruxelles y sont systématiquement affectés au moment de leur retour. L'objectif de cette union, c'est d'intégrer l'Ukraine, mais ceci n'est pas acquis. Reste pour la Russie la question de la Chine, désormais plus forte, avec laquelle elle s'emploie à développer une relation aussi bonne que possible pour conforter sa propre capacité de marchandage, notamment avec les États-Unis, qui ont fortement déçu. Et pour la première fois, un volumineux rapport d'experts russes qui vient de sortir, Stratégie 2020, vient d'indiquer, et formellement, publiquement, que le défi principal pour la Russie, c'est la Chine. La ligne directrice de la Russie comme quasi-BRIC, c'est donc un volontarisme circonspect. Intégrée au sommet des BRICS du sommet de Sanya l'an dernier, l'Afrique du Sud a connu une évolution difficile au cours des dernières années qui suscite une interrogation sur son appartenance. Sa croissance plafonne à 2,7% après avoir su chuter en 2008-2009 aussi, bien sûr, causant la perte d'un million d'emplois pour un pays de 50 millions d'habitants, dont la moitié reste en dessous du seuil de pauvreté. Il est en outre gênant que tous les voisins de l'Afrique du Sud, Mozambique, Zambie, Botswana et Zimbabwe, affichent des taux de croissance autour de 7%. Mais tous ces pays ont besoin de l'Afrique du Sud. Et les handicaps économiques et sociaux, dus en partie au poids historique de l'apartheid, sont compensés par le prestige et la cohésion que l'Afrique du Sud continue de tirer du tournant historique de 1994, qui a valu à l'ANC de rester depuis au pouvoir. La Coupe mondiale de football de 2011, le succès de la conférence de Durban sur l'environnement à l'automne dernier, qui a permis l'adoption d'une plateforme d'action renforcée, enfin, et le 100e anniversaire de l'ANC en janvier dernier, ont relancé le prestige du pays. L'Afrique du Sud reste donc un brique en devenir, son double atout, c'est d'être un partenaire nécessaire pour le développement du dialogue sud-sud que veulent développer la Chine, l'Inde et le Brésil en particulier, et d'être le candidat le plus évident du continent africain pour le siège permanent au Conseil de sécurité. Vieille nation fondée depuis 4 siècles sur l'absence de discrimination raciale, mais pays encore jeune, le Brésil illustre au mieux l'émergence spectaculaire des grands pays périphériques. Il y a quelques mois, la présidente Dilma Rousseff déclarait à son gouvernement et aux membres de son parti, je cite, « Le monde traverse une turbulence économique et financière, mais nous, nous sommes en train de vivre un grand moment. » Le Brésil a dépassé l'Italie et récemment la Grande-Bretagne pour devenir la 6e économie mondiale grâce à une croissance moyenne de 4% par an depuis 2003, qui devrait se maintenir au cours des prochaines années. L'agriculture intelligente, la production des biocarburants ont donné le tremplin. L'industrie a pris le relais, sans oublier les récentes découvertes considérables offshore de gaz et de pétrole qui sont parmi les plus profondes du monde. La classe moyenne compte aujourd'hui 100 millions de personnes, soit la moitié de la population totale. Le Brésil a toujours mis en avant sa volonté de promouvoir le pluralisme dans la gouvernance mondiale sous la forme d'une, je cite, « multilatéralité coopérative ». Doté depuis longtemps d'un solide appareil diplomatique, le Brésil a ouvert plus de 30 ambassades nouvelles dans le monde, dont une quinzaine en Afrique. Il y a quelques jours, à la conférence RECA 5 sur l'Afghanistan à Douchanbé où j'étais, le représentant brésilien a rappelé que son pays avait participé aux 5 conférences internationales consacrées à l'Afghanistan, avait multiplié par 10 son commerce bilatéral depuis 10 ans avec l'Afghanistan et allait ouvrir une ambassade à Kaboul. Le Brésil a en doute créé une union des pays sud-américains qui marque une distance par rapport aux États-Unis et au Mexique, mais suscite aussi le reproche d'un impérialisme jaune et vert. Aujourd'hui, le pays prépare le grand rendez-vous du sommet Rio plus 20 le 22 juin prochain. 2 développements politiques retiennent plus particulièrement l'attention. En mai 2010, le Brésil et la Turquie, membres du G20, mais la Turquie non membre des BRICS, ont tenté ensemble une médiation auprès de Téhéran qui a suscité une vive irritation au sein du G3+3, les négociateurs engagés dans un exercice très délicat de renforcement des sanctions en vue de rétablir le vrai dialogue avec Téhéran. Cette tentative a été inaboutie à cause du refus de l'Iran, mais le discours public et de la Turquie et du Brésil a été de le reprocher aux Occidentaux. Le 4 février dernier, en sens inverse, le Brésil a été associé au vote de l'Inde et de l'Afrique du Sud en faveur de la résolution du Conseil de sécurité sur la Syrie, bloqué par les vétos russes et chinois, comme je l'ai dit. Bien que ne siégeant pas au Conseil, le Brésil a assumé avec New Delhi et Pretoria cette division au sein des BRICS, à cause de leur concertation privilégiée. En août dernier, déjà, ces 3 pays avaient envoyé une délégation à Damas pour proposer d'ouvrir une négociation politique avec les forces d'opposition. Devant le refus syrien, ils avaient ensuite soutenu l'option d'une enquête aux Nations Unies. Cette séquence illustre, au passage, le rôle que joue l'IBAS, Inde, Brésil, Afrique du Sud, liant ces 3 pays depuis 2003, bien avant les BRICS. Quelle est, à partir de là, la dynamique des émergents dans le désordre mondial? Si l'on considère l'émergence en soi comme un phénomène collectif, il faut bien relever qu'il se développe dans un monde en désordre. Les pays émergents ont fait un bond en avant dans la première décennie du siècle, profitant de la crise, qui amplifie leurs contestations et leur donne de nouveaux leviers. Mais les choses sont peut-être allées trop vite. Face au désordre d'un monde presque anomique, les principaux pays émergents se présentent comme des puissances, j'ose dire, prématurées, en rodage. Bien sûr, les transitions ne sont jamais confortables, mais à côté des succès obtenus par ces grands émergents, il faut relever encore une fois l'hétérogénéité du groupe, ses divisions, on vient de les constater sur des enjeux internationaux majeurs, voire des contradictions et des rivalités internes. Alors, à partir de là, ces éléments nous obligent à prendre en compte les ambitions des émergents du second rang, en particulier la Corée du Sud, hôte du sommet du G20 de 2010, l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, déjà rapidement évoqué, le Nigeria qui vient de présenter une candidature de grande qualité pour la Banque mondiale, l'Argentine, le Mexique qui va accueillir au sommet du G20 à Los Cabos en juin prochain le G20. Si cette situation devait perdurer, la formule avancée par Brzezinski serait confirmée. Un monde qui comporte 180 acteurs politiquement actifs devient ingérable. C'est pourquoi l'irruption politique des émergents esquisse un début de réponse, une première hiérarchisation. Dans une période de transition agitée, voire de révolution, les puissances établies recherchent des interlocuteurs crédibles. Les BRICS seraient ainsi le fer de lance, disons-le, d'une révolution bourgeoise à l'échelle mondiale. Mais la situation se complique encore, car qu'il faut prendre plus généralement en compte l'hétérogénéité de tous ces pays émergents et des acteurs mondiaux aujourd'hui. Au regard de la norme westphalienne de l'État constitué historiquement, les pays émergents l'assument pleinement, jusqu'à l'excès. D'autres la dépassent progressivement, les post-westphaliens, c'est en, d'une certaine mesure le monde élevé, et d'autres n'y parviennent pas encore, c'est le groupe des États inachevés ou en échec. Mais il faut y ajouter les acteurs non étatiques, et en particulier les grandes entreprises mondialisées. Selon le critère du budget consolidé, la moitié des 100 premières entités internationales, tous statuts confondus, sont des entreprises multinationales. Il faudrait encore prendre en compte l'économie de l'ombre, c'est-à-dire les groupes criminels qui ont été les premiers bénéficiaires et restent les premiers bénéficiaires de la mondialisation et qui pourraient représenter 10 à 15% du PIB mondial selon certaines évaluations. Alors, quelles sont les tentatives de restructuration qui se mettent en place et qui, de ce fait, mettent en valeur le rôle des pays émergents? Elles restent très laborieuses. Deux grands axes se dégagent. La recherche d'une solution rapide, de quick fix, comme l'on dit. La plus radicale et théorique, c'est celle d'un G2, États-Unis, Chine, qui réduirait le grand jeu des rivalités mondiales à cette bipolarisation. La tendance, au moins dans les débats, est forte. Sans qu'il la propose explicitement, Henry Kissinger va naturellement dans ce sens dans son dernier ouvrage de la Chine. Mais le problème premier, sans compter tous les autres, c'est que la Chine n'en veut pas, en tout cas officiellement. Parce que, évidemment, cette simplification modifierait profondément l'image qu'elle a d'elle-même et qu'elle veut donner d'elle-même, et lui imposerait des responsabilités qu'elle ne veut pas et ne peut pas assumer. L'autre voie est pratique et évidente, c'est celle d'un élargissement du Conseil de sécurité, tant souhaité, tant négocié, tant recherché, et non abouti jusqu'en maintenant, mais qui entraînerait, évidemment, une réforme générale des Nations Unies et des autres organisations internationales. Mais là aussi, il faut constater un blocage de la part de la Chine, qui n'est pas prête à accepter l'accession du Japon et de l'Inde au statut de membre permanent. S'y ajoutent évidemment des rivalités intenses entre pays émergents sur l'aptitude de tel ou tel à représenter leur continent, de manière à ce que le Conseil de sécurité soit plus équilibré. Il y a donc actuellement un décalage persistant entre la rigidité de l'ordre formel des responsabilités politiques, très difficile à réformer, et la souplesse des structures économiques informelles qui se sont développées depuis 30 ans. Le G20 est peut-être la meilleure représentation possible de ce que devrait être le Conseil de sécurité aujourd'hui. Mais il reste à franchir le pas et à organiser en conséquence la prise de décision et de responsabilité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. On n'en est pas là. Le décalage entre économie et politique est une donnée de fait dans cette recherche des instances appropriées de gouvernance. Alors, l'autre voie, c'est la structuration du dispositif G8-G20. On a pu penser à un moment que le G20 allait remplacer le G8, disqualifié en quelque sorte par la crise et le basculement du monde. Les flottements du G20 et la résilience du G8 ont montré là aussi que les solutions rapides ne sont pas forcément les meilleures et que les transitions sont nécessaires. Le fond d'expérience du G8, l'étroitesse de la concertation entre les capitales, et en particulier le G7 Finance, et la rapidité de réaction sont et restent des atouts. Il a suffi d'un sommet du G8 à Deauville, au printemps dernier, pour mobiliser 80 milliards de dollars en réponse aux révolutions arabes, alors qu'on imagine l'éclatement des positions du G20 sur le sujet. Il faut donc réserver une attention particulière à la structuration en cours au sein du G20, et la présidence française en 2011 y a fortement contribué, notamment lors du sommet de Cannes, qui d'une certaine façon a été sous-estimé, en raison des secousses dramatiques liées à la crise grecque, bien évidemment. Dans son intervention le 3 novembre dernier à Cannes, le président Hu Jintao a présenté un véritable programme de travail pour, je cite, c'est le titre, « promouvoir la croissance par une coopération gagnant-gagnant ». Tout au long des travaux préparatoires et au cours du sommet, la Chine a fait preuve de pragmatisme. Plusieurs puissances émergentes, moyennes, qui ne sont pas membres des BRICS, ont constitué des coalitions ad hoc à géométrie variable sur des thèmes précis. Cannes a ainsi confirmé l'utilité de groupes de travail sur des projets concrets et d'une approche à long terme, sujet par sujet, qui permet l'appropriation progressive des grandes normes internationales par les pays émergents. Le fonctionnement interne du G20 a également été consolidé avec la mise en place d'une troïka des trois présidents successifs. Le Mexique entend poursuivre dans cette voie pour le sommet de juin prochain en mettant l'accent sur les problèmes économiques transnationaux, commerce international, lutte contre la pauvreté, changement climatique, développement durable et criminalité internationale. L'attitude collective des BRICS au sein des émergents face à cette structuration du G20 reste jusqu'à présent principalement critique et défensive à l'égard des Occidentaux. Ambitieux pour eux-mêmes, chacun suivant sa propre voie, ils ont adopté une attitude collective plutôt réductrice qui souligne les responsabilités des pays occidentaux dans le déclenchement de la crise, l'insuffisance des réponses actuelles, mais récuse l'ouverture trop large, juge-t-il, de chantiers communs qui les engageraient trop fortement sur la question de la monnaie, des flux de capitaux ou des normes sociales. Leur aptitude à se coordonner plus régulièrement en marge du G20 leur permet de surmonter leurs divergences et de piloter leurs réponses communes lors des réunions collectives. À partir de là, peut-on, en fin de compte, esquisser un modèle permettant d'orienter le processus irréversible de transformation du système international? La réponse la plus courante est, depuis une quinzaine d'années, celle de la multipolarité, forgée en réponse à la prépondérance de l'hyperpuissance américaine au début des années 90. La France a milité en ce sens, avec notamment la Chine, l'Inde ou le Japon, et les BRICS, maintenant, ont pris le relais. Mais l'image d'une dizaine ou d'une douzaine de pôles politique, stratégique, peut sembler à première vue structurante, comme une sorte de concert mondial reprenant le modèle européen du XIXe siècle. Mais ce schéma reste en définitive vague et conduit à s'interroger sur ses conséquences. Ce modèle de remplacement comporte de fortes limites. Il est marqué par de fortes inégalités, il est très compétitif, il est très discriminant. On peut vite glisser vers un darwinisme international pur et dur. De façon révélatrice, les pays émergents moyens et les pays en développement redoutent une marginalisation et demandent l'établissement d'un modèle beaucoup plus inclusif. La redistribution désormais bien réelle du pouvoir à l'échelle internationale a relancé la réflexion sur l'établissement d'une autorité mondiale qui permettrait de surmonter les blocages persistants du système des Nations Unies. L'idée a été lancée il y a 50 ans, au temps de la guerre froide, par Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris. Elle vient d'être reprise par Benoît XVI, membre, Madame la Présidente, de votre Académie, et je l'ai entendu souvent le rappeler avec plaisir. Il l'a fait dans Caritas in Veritate, qui souligne, récemment paru, qui souligne que le marché mondial ne trouve pas en lui-même sa propre norme. Il faut reconnaître la force de cette vision, la nécessité de cette utopie, et constater, dans le même temps, l'impossibilité présente de mettre en place une autorité en surplomb, imposée de haut. La voie prometteuse, c'est l'agrégation progressive, imparfaite, d'éléments d'autorité mondiale. Le G20 en est un, et il faut relever la formation d'un groupe B20 entre les représentants des entreprises lors du sommet de Cannes, et même d'un groupe L20 entre les représentants syndicaux. La reconstruction qui s'engage part en effet du constat de l'insuffisance du marché. La compétition exacerbée conduit à une déshumanisation de l'économie, à la désocialisation, en fin de compte, à la fuite de la confiance indispensable au marché. Ce danger véritablement mortel pour le marché lui-même fonctionne alors comme un aiguillon, un système d'alerte et de rappel qui suscite en retour un besoin de sociabilité, de gratuité, de mutualisation qui s'appuie sur l'interdépendance croissante entre les États contemporains. En conclusion, l'émergence des nouvelles puissances est un processus ouvert, fait de compétition et de coopération. Mais l'expérience des dernières années montre qu'il est possible de structurer progressivement et même de tirer profit des crises. Ce constat concerne plus particulièrement l'Union européenne, qui est plus fortement poussée à cette transformation. Ceci suppose plus de régulation interne, une meilleure conscience de ses propres ressources et, en fin de compte, une confiance retrouvée dans sa capacité à présenter des formules originales et équilibrées, car construites sur le compromis dont tous auront ensuite besoin. Pour la France, enfin, l'émergence de nouvelles puissances est particulièrement déstabilisante. Mais en même temps, elle est reconnaissable, grâce, disons-le, au modèle gaullien, dans ses forces comme dans ses faiblesses. Elle conforte en particulier la nécessité d'entretenir en permanence une réflexion fondamentale sur l'évolution du système international, de cultiver la phronesis face à l'hubris, c'est-à-dire d'exercer pleinement notre raison dans un monde de passion. Madame la Présidente, je vous remercie.
Vous venez d'entendre Pierre Morel dans cette même série de communications de l'année 2012, série intitulée par le président Marianne Bastide-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel ». Vous pouvez écouter d'autres communications sur les questions démographiques ou énergétiques, en un mot, sur les forces neuves en germe dans le monde actuel. Sur Canal Académie, ces émissions en séance sont en libre accès permanent.